les jardinières.
Les vacances sont terminées pour les jardinières. Nous sommes ravis de vous retrouver de si bon matin pour parler jardinage. Bonjour Brian.
Bonjour Mylène.
On débute la saison en compagnie de Claudine Miseret. Bonjour Claudine.
Bonjour.
Claudine Miseret, vous êtes permacultrice et cultivatrice de plantes aromatiques et médicinales à la microferme biologique La Rochette à Charmoy. Merci d'être notre invitée ce matin.
Et soyez les bienvenus chez les jardinières. On vous accompagne jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Claudine, nous avons eu un été partagé entre un mois de juillet très pluvieux et un mois d'août très chaud. La pluie a fait son retour cette semaine. Et pour continuer à récolter des légumes dans les semaines qui viennent, quels conseils avez-vous pour les personnes qui nous écoutent ?
Alors, je dirais qu'il ne faut pas désespérer. il va encore pleuvoir probablement un peu, ça va relancer certaines cultures, donc voilà, la nature fait bien les choses, et puis s'il pleut encore, de temps en temps, vraiment ça va reprendre quoi.
Merci Claudine, vous êtes notre invitée jusqu'à 8h, et en seconde partie d'émission, vous répondrez aussi aux questions jardinage de nos auditeurs, des questions qu'on attend par téléphone au 0900 70 20 20, ou alors passe par SMS, vous tapez jardin, un espace suivi de votre question et de votre nom, et vous nous l'envoyez au 939, ou alors troisième possibilité par formulaire disponible sur notre site internet, avec la possibilité de joindre une photo à votre question.
Et on se retrouve juste après la pause musicale et nous parlerons de plantes aromatiques, et plus particulièrement de leur conservation pour pouvoir en profiter même après l'été.
7h, 8h, les jardinières.
On parle jardinage jusqu'à 8h et plus particulièrement des plantes aromatiques. Elles embaument nos balcons et nos potagers, elles parfument nos plats. Mais comment bien les récolter pour ensuite les conserver pour en profiter toute l'année ? La réponse avec notre invitée Claudine Miseret. Du coup, Claudine, quelles plantes aromatiques est-ce qu'on peut récolter ces jours ?
Alors ça dépend un peu si vous êtes en montagne, dans les hauts de la Chaux-de-Fonds par exemple, ou bien si vous êtes sur le littoral. Chez nous, on est à 500 mètres, il y a certaines choses qui sont déjà passées, mais on peut toujours récolter les basiliques de toutes sortes, la sarriette par exemple, la sauge ou le romarin qui se récolte toute l'année. Et puis si vous êtes vraiment en montagne, peut-être qu'il y a certaines plantes comme l'origan par exemple, que vous pouvez encore tout à fait récolter.
Et puis alors comment est-ce qu'on sait si une plante est bonne pour la récolte ?
Bah alors déjà, il faut prendre une plante saine, ça paraît évident, mais c'est important, une plante qui n'a pas de champignons, qui n'est pas malade, qui n'est pas souillée. Et puis, en fait, ça dépend ce qu'on veut récolter, parce qu'il y a certaines plantes pour lesquelles on récolte les feuilles, la sauge par exemple, certaines plantes pour lesquelles on récolte seulement les fleurs, par exemple la monarde, on peut aussi utiliser les feuilles, mais voilà, si on veut récolter les fleurs, ben on la prend en fleurs. Certaines plantes pour lesquelles on récolte les feuilles et les fleurs, comme le thym, et puis d'autres pour lesquelles on récolte la graine, comme le fenouil ou la coriandre, et encore la racine, comme le réfort. Et du coup, ça dépend un petit peu ce qu'on veut récolter, mais si on veut récolter les fleurs, on doit attendre que la plante soit en pleine floraison. Et là, on peut regarder les abeilles, si elles sont en train de butiner, on peut se dire que c'est le moment de récolter par exemple.
Claudine, pour la récolte, est-ce qu'il y a un moment idéal dans la journée? Par exemple, est-ce qu'on fait ça plutôt tôt le matin, en fin de journée? C'est égal?
Non, c'est pas vraiment égal en fait. Alors dans tous les cas, il faut pas récolter quand la plante est humide, c'est-à-dire qu'on va pas récolter avant que la rosée ait séché, et on va essayer de pas récolter s'il a fait vraiment froid et pluvieux pendant plusieurs jours, parce que c'est un peu comme si ça diluait les arômes de la plante. Donc le moment idéal, ce serait le matin après la rosée, mais bon, comme on fait ce qu'on peut et pas toujours ce qu'on veut, on peut aussi récolter l'après-midi, juste peut-être pas après le coucher du soleil, ça c'est vraiment un impératif.
Et est-ce que le stade de floraison joue un rôle assez important dans la qualité et surtout dans la puissance des arômes ?
Oui, alors vraiment, il y a certaines plantes qu'on récolte absolument pas après floraison parce qu'elles changent de goût. C'est le cas de la mélisse, par exemple. Donc une fois qu'elle a fleuri, vraiment, elle n'a pas la même odeur. C'est une odeur assez presque un peu désagréable, en fait. Donc il y a certaines plantes vraiment qu'on récolte avant floraison. Et le fait qu'elles aient fleuri, ça va souvent les rendre aussi un petit peu plus coriaces, un peu fibreuses. Donc c'est pour ça qu'on récolte généralement la sauge avant floraison. Mais par exemple, le basilic ou le romarin, on peut tout à fait récolter à n'importe quel moment. Ça va pas forcément beaucoup changer le goût et ça ira très bien quoi.
Et Claudine, quelle est la meilleure façon de couper les herbes pour favoriser leur repousse et éviter d'épuiser la plante ? Quel outil on peut utiliser ?
Alors, si c'est pour une plante qui est pas trop coriace, évidemment qu'on peut prendre un ciseau de cuisine. Si c'est plus coriace, comme de la lavande ou de l'origan, etc., c'est quand même plus pratique avec un sécateur. Et dans tous les cas, je vous recommande d'utiliser vraiment des outils qui coupent bien pour pas blesser la plante. Et au niveau de la façon de couper, ça dépend un peu si c'est vraiment pour faire le plat du jour où on a besoin de quelques brins. Dans ce cas-là, on va prendre ce dont on a besoin. Et le mieux, c'est de ne pas prendre que la tête, mais de prendre quand même une certaine longueur de tige en coupant au-dessus d'un nœud. Et là, ça va permettre à la plante de vraiment ramifier et de refaire des jolies pousses, alors que souvent, on a tendance à prendre que la tête, en fait. Et là, ça va pouvoir l'épuiser assez rapidement. Elle va faire des longues tiges filasses comme ça et ça va rien donner. Et ça, c'est vraiment pour les plantes qu'on va récolter régulièrement. Et si on veut récolter pour une grande quantité, par exemple récolter son thym ou son origan, dans ce cas-là, on va récolter les 2/3 en hauteur de tige pour la première récolte. Et si par chance on peut faire une deuxième récolte parce qu'il a fait beau, etc., bah, à ce moment-là, on va prendre 1/3 de hauteur de tige. C'est un ordre de grandeur, mais c'est juste pour éviter que de ratiboiser la plante et puis qu'elle ait du mal à repartir, quoi.
7h, 8h, les jardinières.
Il y a quelques instants chez les jardinières, on a vu comment récolter ces plantes aromatiques pour profiter au maximum de leur saveur. Mais une fois cueillies, comment les conserver pour prolonger leur parfum et leur fraîcheur? Et c'est justement ce que vous allez nous expliquer, Claudine. Le plus souvent, quand on parle de conservation de plantes aromatiques, eh bien on pense au séchage. C'est la technique la plus utilisée. Alors Claudine, comment on fait pour faire sécher nos plantes?
Alors déjà, on prend une plante sèche. Ça paraît fraîche. Logique, mais sèche. Vraiment, il faut qu'elle soit sèche au moment où vous la récoltez.
Donc, ça sèche, va vraiment... pas humide, mais pas sèche dans le terme. Elle n'a plus d'eau sur elle.
C'est ça. Elle a plus d'eau sur elle. Elle a pas de rosée. Il y a pas de pluie. Elle est pas humide. Il y a pas d'eau dessus, quoi. Donc, on va récolter d'abord une plante qui est déjà pas humide. Et puis, si c'est des plantes très ligneuses, comme du romarin ou de la sarriette, qui ont des longues branches, on peut tout à fait sécher en bouquet la tête en bas. Dans une cuisine, par exemple, du moment que c'est pas en plein soleil, ça séchera assez rapidement. Mais si c'est des plantes plus fragiles ou plus petites, comme du thym ou du basilic, évidemment qu'on peut pas vraiment mettre, on peut pas mettre du thym séché en bouquet. Donc là, je vous recommande de le mettre sur, par exemple, une plaque à gâteau, si vous n'avez pas un séchoir, ce que j'imagine que vous n'avez pas. Donc vraiment sur une plaque à gâteau, une grande assiette, ça suffit. Et vraiment dans une cuisine ou n'importe quel endroit qui est bien ventilé, qui est hors poussière et qui est pas en plein soleil, ça ira en général assez rapidement. En 2-3 jours, c'est sec. Il y a juste certaines plantes comme comme le basilic ou la menthe qui prennent un peu plus de temps.
Alors, quelles sont les erreurs les plus fréquentes quand on essaie de conserver des plantes aromatiques?
Alors, c'est justement certaines plantes qui sont un peu plus fragiles, elles vont peut-être prendre trop de temps à sécher et puis elles vont noircir, donc ça veut dire qu'elles s'oxydent. Et là, avec des moyens ménagers traditionnels, mettre sur votre plaque à gâteau ou une assiette, vous allez avoir du mal à éviter ça pour certaines plantes. Donc ça va peut-être se produire. Si vous voyez que certaines plantes ont noirci, vous les enlevez. C'est vraiment qu'elles auront perdu l'odeur, elles n'auront plus les propriétés et le goût que vous voulez. Et l'autre chose à bien regarder, c'est d'attendre que les plantes soient vraiment sèches, pour le coup, qu'elles craquent un peu au toucher, comme ça, avant de les mettre en sachet ou en boîte, ou etc. Sinon, ça veut dire qu'elles sont encore un peu humides et elles risquent vraiment de moisir. Donc, je vous recommande de les mettre après dans un sachet craft ou bien dans une boîte en métal, hors lumière et hors humidité.
Est-ce qu'il faut éviter le plastique pour la conservation de ces plantes aromatiques séchées?
Non, pas vraiment. C'est plutôt une question de plastique. Qu'est-ce que vous avez mis dedans avant? Si c'est votre tube pour mettre votre sauce tomate à l'ail, peut-être que ça va donner ce goût en fait à vos plantes. Et puis, au contraire, il y a certaines plantes qui vont donner du goût à vos boîtes en plastique. Donc c'est plutôt ça.
Et puis rapidement, Claudine, est-ce que toutes les plantes aromatiques se conservent de la même façon? Est-ce qu'il faut adapter la conservation selon l'espèce? La variété.
Alors, il y a certaines. Ça dépend. C'est surtout le type de plante, le type de feuille. Si c'est des feuilles vraiment très molles, de nouveau, on revient sur notre basilic par exemple, on va souvent avoir du mal à les sécher. Et puis, dans ce cas-là, ou bien l'ail des ours, enfin voilà, ces feuilles vraiment molles comme ça, on peut les sécher et les conserver sèches, mais comme c'est parfois un peu difficile, bah là, on peut aussi les conserver d'une autre manière, on va en parler après. Et puis, il y a certaines plantes qui perdent vraiment leur odeur ou qui changent vraiment d'odeur au séchage. Alors, si on aime, ça va, mais il ne faut pas s'attendre à avoir exactement l'odeur de la plante fraîche, typiquement l'ail des ours. Ça a plutôt le goût de ciboulette une fois que c'est séché.
Les jardinières.
Les jardinières sont de retour et on vous parle jardinage, bien sûr, jusqu'à 8h. Ce matin, nous sommes en compagnie de Claudine Miseret, permacultrice et cultivatrice de plantes aromatiques et médicinales à la microferme biologique La Rochette à Charmoy, dans le Jura. Et ce matin, on parle plantes aromatiques et surtout comment les conserver pour en profiter longtemps. Et puis, bien sûr, nous répondrons aux questions de nos auditeurs.
Vous pouvez nous appeler pour poser vos questions au 0900 70 20 20 et vous parlerez en direct avec Claudine. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo via le formulaire disponible sur notre site ou alors simplement nous écrire un SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question et votre nom et vous nous envoyez tout ça au 939.
Claudine, avant la pause, vous nous avez parlé du séchage de nos plantes aromatiques. Est-ce qu'il est aussi possible de congeler nos plantes aromatiques ? C'est une bonne ou une mauvaise idée ?
Alors pour les plantes qui ont tendance à changer de goût, comme on a dit, ces plantes souvent très molles comme ça, tout à fait, ça va changer un peu leur structure, donc elles vont devenir encore plus molles. Ben, on sait bien qu'un aliment qui est congelé, décongelé, après il devient très mou. Donc on ne peut pas vraiment congeler un bouquet de ciboulette et ensuite le décongeler, ça ne va pas marcher. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est hacher votre ciboulette par exemple et la mettre dans des cubes à glaçons avec de l'eau. Et vous mettez ça au congélateur et ensuite quand vous avez envie d'utiliser votre ciboulette, bah vous mettez votre glaçon dans votre plat. Et là ça va beaucoup mieux marcher, ça va beaucoup garder le goût et par contre bah, ça n'aura pas la texture de la ciboulette fraîche, mais finalement si vous l'utilisez dans un plat cuisiné, ça va aller aussi.
Et puis si on a envie de les garder fraîches, Claudine, est-ce que vous avez des astuces pour prolonger la durée de vie de ces herbes aromatiques dans la cuisine une fois coupées ?
Bah, c'est vrai qu'on a tendance à les mettre dans un verre un peu comme un bouquet de fleurs et souvent ça marche pas trop. Au bout de déjà quelques heures, elles ont tendance à devenir toutes flappy comme ça. Donc pour garder vos plantes les plus fermes possibles, donc je parle vraiment là des plantes qui sont déjà très molles comme ça, donc ce qu'on va acheter en fait au magasin en petite barquette quoi. Ben en fait c'est vraiment de refaire la même chose chez vous, donc de éventuellement les passer un coup rapidement sous l'eau, donc là, vraiment si vous allez les utiliser en cuisine, les passer un coup rapidement sous l'eau et les mettre dans un sachet plastique au frigo dans le bac à légumes. Et si jamais il y a des parties qui noircissent après quelques jours, vous les enlevez, mais ça va vraiment permettre de garder vos herbes aromatiques fraîches, donc toutes ces herbes qu'on a tendance à utiliser vraiment dans la cuisine fraîche. De les garder beaucoup plus fermes, un peu comme une salade en fait.
Claudine, vous êtes cultivatrice de plantes aromatiques. Pour vous, quel est le meilleur moyen de conserver les plantes ?
Alors, incontestablement, les sécher, parce que ça va vraiment, même si ça change un peu le goût pour certaines, ça va vraiment garder les huiles essentielles, ça va garder les... vraiment ce goût qu'on va pouvoir réutiliser en bouquet, dans n'importe quel plat cuisiné. Et ça va vraiment apporter cette saveur au plat. Par contre, l'idéal, c'est de ne pas les broyer, en fait. Des fois, on trouve des plantes aromatiques broyées. Et c'est vraiment dommage parce qu'elles ont déjà perdu toutes les huiles essentielles, pas tout, mais beaucoup des huiles essentielles qu'elles contiennent par évaporation, en fait. Donc, vraiment, d'essayer de garder votre petit bocal de thym, votre petit bocal de romarin séché à portée de main et vraiment de les broyer minutes avant de faire vos plats. Ça, pour moi, c'est l'idéal. Après, je dis pas non à un pesto de basilic, hein. Franchement, c'est pas mal aussi, quoi.
Et Claudine, il y a une question qu'on a oublié de vous poser. Ces plantes séchées, combien de temps on peut les garder ?
Alors, ça dépend un peu comment vous les avez conservées, mais en général, elles commencent à perdre un peu leur odeur au bout d'une année. Si elles ont été bien conservées 2 ans, au-delà, on voit qu'elles perdent leur couleur, elles ont beaucoup moins de goût. Mais voilà, je dirais une année, c'est l'idéal. Après, de nouveau, on fait comme on peut et pas comme on veut. Donc voilà, si on a des herbes dans sa cuisine qu'on n'a pas utilisées, autant les employer quand même, quoi. Ça va pas faire de mal. Et puis au moins, il n'y aura pas de gâchis.
Et puis vous, Claudine, qui avez goûté énormément de plantes aromatiques, qui avez énormément de connaissances à ce sujet, c'est quoi la plante aromatique favorite que vous avez?
Ah bah, vous aurez remarqué que je parle beaucoup de basilic. En fait, là, j'ai découvert il y a quelques années le basilic sacré. Donc, c'est un basilic qui vient d'Afrique ou d'Inde. Voilà, il n'y a pas qu'un basilic sacré, il y en a plein. Et c'est vraiment une plante que j'apprécie beaucoup parce qu'elle peut s'utiliser autant en cuisine qu'en tisane. Et moi, alors, j'adore les tisanes. Donc, forcément, là, c'est. Bon, il y a beaucoup de plantes qu'on peut utiliser de toute façon en tisane et en cuisine. Mais c'est vrai que cette plante-là, elle est hyper aromatique. Elle est très spéciale. Et voilà, c'est un peu mon coup de cœur du moment là.
On la trouve chez vous, ce basilic sacré, on le trouve à
Ouais,
chez
on la trouve chez nous. Ouais, c'est vrai qu'on se dit que forcément c'est une plante indienne ou africaine, etc. Donc elle pousse pas chez nous.
Mais
Mais
oui.
en fait, oui, les basilics sont pas vivaces, donc ça veut dire qu'ils chez nous, hein. Donc ça veut dire qu'ils vont mourir en hiver parce qu'ils supportent pas le froid et le gel. Mais on peut tout à fait les cultiver chez soi. Et si on veut les cultiver à l'intérieur et qu'on a vraiment envie de préserver un basilic sacré. Dans ce cas-là, il faut des lampes UV. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est possible. Il y en a qui le font quand même.
Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et il est temps de répondre aux questions jardinage de nos auditeurs. Alors, Brian, on va peut-être rappeler comment faire pour poser les questions.
Alors la première possibilité, c'est par téléphone au 0900 70 20 20. Et en composant ce numéro, vous parlerez en direct avec notre spécialiste. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo via le formulaire disponible sur notre site internet ou alors simplement nous écrire un SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question et votre nom et vous nous l'envoyez au 939.
Et Claudine, on a reçu une photo de Solène de Ange qui nous dit « Bonjour, nous avons cette fleur dans notre jardin, pourriez-vous me dire son petit nom ?» Un grand merci. Alors on va peut-être commencer par décrire la fleur. Est-ce que je vous laisse faire avec vos termes de jardinière, Claudine?
Alors, c'est une plante avec une longue tige comme ça, qui ressemble beaucoup à une mauve en fait, qui a une fleur un peu rose, rose clair, rose pâle comme ça, et des assez grandes feuilles. Et c'est une rose trémière. Donc de la famille des mauves aussi. Là, elle est pas très très haute, mais elle peut vraiment devenir haute. Elle peut aller jusqu'à 2 mètres, hein, vraiment la rose trémière. Et c'est une vivace donc qui persiste dans le sol en hiver. La partie aérienne va mourir, mais la racine va, normalement, si tout se passe bien, la racine va survivre et puis repousser l'année prochaine, redonner une plante l'année prochaine. Et puis souvent, elle se ressème aussi. Et justement, ces petites graines, en fait. Une fois que la fleur fanée a tombé, les graines ressemblent à un espèce de fromage comme ça, qui se sépare en petits quartiers, vraiment
Un
comme un
petit
fromage,
camembert.
comme un petit camembert du Trivial Poursuite. Et on peut manger ces petites graines qui ont un goût de noisette, donc quand elles sont fraîches. Et on peut aussi tout à fait manger le reste de la plante. C'est une plante comestible, donc si on veut utiliser la fleur pour décorer un plat ou une salade, on va pas intoxiquer ses invités. Donc c'est une plante assez sympa. Elle se ressème toute seule, elle revient l'année prochaine, on peut la manger, c'est top.
Merci Claudine. On a reçu d'autres questions d'auditeurs, notamment un auditeur qui a un petit souci avec des souris qui attaquent ses courges et qui les bouffent. Que faire pour qu'elle laisse le potager en paix?
Bon, alors ça, c'est une vaste question, hein. Comment faire pour que les souris, bah, alors souvent c'est des campagnols, hein, laissent notre potager en paix. Sincèrement, à part avoir des rapaces qui traînent dans le coin et qui vont se nourrir de ces souris et de ces rongeurs, c'est vrai qu'on peut mettre des trappes, hein, si vraiment on a. Des fois, c'est une souris qui a trouvé le truc, qui a décidé que les courges, c'était son plat préféré et qui va manger les courges en priorité parce qu'elle aime ça. Donc des fois, éliminer la souris coupable. Peut aider. Donc, si vous êtes sensible comme moi, vous pouvez tout à fait trouver des trappes à souris qui sont des petites cages, hein, et ensuite on amène la souris loin, loin. Et puis peut-être que voilà cette souris-là qui vous embêtait, bah du coup ne sera plus là et vous aurez plus de problème avec vos courges. Après, si vraiment on peut mettre pour les campagnols, hein, des pièges qui les tuent sur le coup, ça s'appelle les top 4 et il faut trouver leur galerie. Dans ce cas-là, on met le top 4. Dans la galerie, et puis vraiment ça les nuque quand elles passent. Alors de nouveau, faut pas être sensible, mais c'est vrai que voilà, des fois, il suffit d'éliminer un ou deux rongeurs, enfin, peut-être pas un ou deux, mais quelques rongeurs pour que le jardin soit tranquille. Et si on veut éviter tout ça, on peut mettre les courges en hauteur, parce qu'on oublie que les courges, c'est des plantes grimpantes. Donc on peut tout à fait faire grimper nos courges sur une structure. Et puis là, en général, bah, elles vont vraiment faire leurs fruits. Des fois, on a un peu l'impression qu'elles vont tomber sur la tête, mais en fait, non, c'est solide. Et puis, elles vont mûrir, faire leur cycle tout normalement. Elles seront beaucoup plus protégées, justement, des limaces, des rongeurs, etc. Donc, c'est une idée pour l'année prochaine.
Et puis, si elle tombe, elle peut toujours assommer une souris.
Voilà.
Merci, Claudine. On a encore une question sur des tournesols qui sont en fleurs. Est-ce qu'on peut récolter les graines pour les semer au printemps prochain? Comment faire?
Ah oui, alors les tournesols se ressèment très bien. La petite chose à laquelle il faut faire attention, c'est que souvent les oiseaux récoltent les graines avant nous. Donc si vous voulez vraiment récupérer vos graines de tournesol, il faut arriver avant les oiseaux. Et ça, c'est un grand problème. Bon, quoique les oiseaux ont le droit de manger aussi, donc voilà. Mais vous pouvez couper la tête du tournesol et vraiment la mettre sécher à un endroit. Non, pas des oiseaux. Et ensuite, vous mettez le tournesol à sécher. Oui, non, mais. Non, là, vous coupez la tête du tournesol. Vous le mettez à sécher dans un endroit bien, bien sec, bien ventilé, comme vos plantes aromatiques. Et puis, les graines qui sont vraiment dures sont celles qui sont viables. Parce que souvent, les graines du milieu ne sont pas viables. C'est juste parce que le tournesol, il fleurit vraiment depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Et souvent, les petites graines du milieu qui sont vraiment minus, elles contiennent rien, elles sont vraiment vides. Donc si on appuie dessus, on voit qu'il n'y a pas de graines. Donc oui, on peut tout à fait récolter ces graines et les semer au printemps prochain. Et dans ce cas-là, on les conserve la même chose que vos plantes aromatiques. Une fois qu'elles sont vraiment bien sèches, vous les mettez dans un sachet Kraft ou dans une boîte, en notant ce que c'est. Et puis l'année prochaine, vous les ressemez.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, nous avons parlé de plantes aromatiques. C'est le moment de les cueillir pour certaines, de les conserver surtout, pour en profiter au-delà de l'été. Vous pourrez retrouver les conseils de Claudine, notre invitée en cours de matinée, en podcast sur notre site. Alors Claudine, avant de vous laisser filer, à part cueillir nos plantes aromatiques, qu'est-ce qu'on peut faire au jardin ces prochains jours? Dites-nous ça rapidement.
Bah, on cueille les plantes aromatiques, hein, c'est
non,
le moment-là.
À part ça
on peut commencer gentiment à préparer pour l'automne, parce qu'en fait, on a l'impression que c'est encore le plein été, mais il y a beaucoup de plantes qui ont terminé leur cycle. Donc, on peut enlever ce qui... Voilà, pour certaines plantes, typiquement les plantes aromatiques, bah, l'origan, il a fait souvent des longues tiges qui maintenant sont sèches. Donc, si on a envie que le jardin soit propre en ordre, comme généralement les Suisses aiment bien, eh ben, on peut tout à fait couper ces tiges qui sont sèches, ou bien juste les laisser et puis profiter du moment parfait de la fin de l'été où il suffit d'aller dans le jardin, récolter plein de trucs et ne rien faire.
C'est bien.
Pas mal aussi.
Merci Claudine. On rappelle que vous êtes permacultrice et cultivatrice de plantes aromatiques et médicinales à la microferme biologique La Rochette à Charmoye. C'était un plaisir de débuter la saison des jardinières en votre compagnie.
Merci beaucoup.
Et la semaine prochaine, c'est Olivier Ribaud, pépiniériste à Porrentruy, qui sera l'invité des jardinières. Quant à nous, Brian, nous laisserons nos places définitivement à Noélie et Léo. Et juste pour ajouter que c'était un plaisir de passer plus de 6 ans à me réveiller tous les samedis pour les jardinières. Brian, un dernier mot.
Oui, Mylène, non, mais vous n'allez pas vous en tirer comme ça, parce que quand même, il faut qu'ils comprennent que après, ça fait quoi, 7 ans, 8 ans maintenant?
Ouais, quelque chose comme ça.
À vous réveiller tous les samedis matins pour préparer les jardinières. Ben, Mylène, vous venez de faire votre dernière. Donc, merci infiniment pour toutes les émissions que vous avez préparées, que vous avez réalisées. Ça a toujours été un plaisir, d'une part, d'être avec vous ces deux dernières années. Et puis, je pense pour les auditeurs, les fidèles auditeurs des jardinières, de vous écouter tous les samedis matins depuis toutes ces années.
Merci beaucoup, Brian.
Oh, lâchez pas une larme.
Hein. Non, j'allais bon, c'est de la radio, on les verra pas, de toute façon. Merci, Claudine. Merci, Brian.
Merci beaucoup.
Un excellent week-end et au plaisir de vous recroiser dans les blablas de la radio. Bon week-end.
Bon week-end.
7h, 8h, les jardinières.